Ладно, пока надо. Вот что.
Sì, perché quando rilascia sei.
Un petit peu aujourd'hui d'un aspect de la du néolibéralisme américain, c'est-à-dire la manière dont ils essaient d'utiliser l'économie de marché et les analyses caractéristiques de l'économie de marché à au déchiffrement de rapports non marchands, au déchiffrement de phénomènes qui ne sont pas des phénomènes strictement et proprement économiques, mais qui sont ce qu'on appelle, si vous voulez, des phénomènes sociaux. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'application de la grille économique à un champ qui, au fond, depuis le 19e siècle, et on peut dire sans doute depuis la fin du 18e déjà, à un champ qui avait été défini en opposition avec l'économique, ou en tout cas en complément de comme étant ce qui, en soi, par ses propres structures et par ses propres processus, ne relève pas de l'économie, quand bien même l'économie se situe à l'intérieur de l'économie elle-même se situe à l'intérieur de ce domaine. Autrement dit encore, c'est le problème de l'inversion du rapport du social à l'économique qui est, je crois, en jeu dans ce type-là d'analyse. Bon, reprenons, si vous voulez, la thématique du libéralisme allemand, l'ordolibéralisme. Vous vous souvenez que dans cette conception, celle de Heuken, celle de Röpke, celle de Müller-Armack, etc., bon, le marché était défini comme étant un principe de régulation économique indispensable à la formation des prix et par conséquent au déroulement conforme du processus économique. Bon. La tâche du gouvernement, c'était, par rapport à ce principe du marché comme fonction régulatrice indispensable de l'économie, la tâche du gouvernement, c'était quoi? C'était d'organiser une société, de mettre en place ce qu'ils appellent une Gesellschaftspolitik, qui soit telle que ces fragiles mécanismes du marché, ces fragiles mécanismes concurrentiels, puissent jouer à plein et selon leur structure propre. Une Gesellschaftspolitik était donc une Gesellschaftspolitik qui était orientée vers la constitution d'un marché. C'était une politique qui devait prendre en charge et en compte des processus sociaux pour faire place à l'intérieur de ces processus sociaux à un mécanisme de marché. Mais cette politique de la société, cette Gesellschaftspolitik, pour arriver ainsi à constituer un espace de marché où les mécanismes concurrentiels pourraient jouer réellement malgré leur fragilité intrinsèque, cette Gesellschaftspolitik, elle consistait en quoi? En un certain nombre d'objectifs dont je vous ai parlé, qui étaient par exemple éviter la centralisation, favoriser les entreprises moyennes, soutenir ce qu'ils appellent les entreprises non prolétariennes, c'est-à-dire en gros l'artisanat, le petit commerce, etc., multiplier l'accès à la propriété, tâcher de substituer les assurances individuelles aux couvertures sociales du risque, régler aussi tous les problèmes multiples de l'environnement. Bon. Cette Gesellschaftspolitik, évidemment, comporte un certain nombre d'équivoques et pose un certain nombre de questions. Questions, par exemple, de son caractère purement optatif et son caractère léger par rapport au processus lourd et autrement réel de l'économie. Bon, le fait aussi qu'elle implique une intervention, un poids, un champ, une quantité d'interventions extraordinairement nombreuses, dont on peut se demander si effectivement ils répondent bien au principe que ça ne doit pas être des interventions sur le processus économique, mais des interventions pour le processus économique. Enfin bon, toute une série de questions et d'équivoques, mais celle sur laquelle je voudrais insister, c'est celle-ci, c'est que Enfin, il y a dans cette idée d'une Gesellschaft politique quelque chose que j'appellerais une équivoque économico-éthique autour même de la notion d'entreprise. Parce que faire une Gesellschaft politique, au sens de Röpke, de Rustorf, de Müller-Armack, etc., ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'un côté, généraliser, en effet, la forme entreprise à l'intérieur du corps ou du tissu social. Ça veut dire reprendre ce tissu social et faire en sorte qu'il puisse se répartir, se diviser, se démultiplier selon, non pas le grain des individus, mais le grain de l'entreprise. Il faut que la vie de l'individu s'inscrive, non pas comme vie individuelle, à l'intérieur d'un cadre de grande entreprise qui serait la firme ou qui serait à la limite l'État, mais que la vie de l'individu puisse s'inscrire dans le cadre d'une multiplicité d'entreprises diverses, emboîtées et enchevêtrées, d'entreprises qui sont pour l'individu en quelque sorte à portée de main, entreprises assez limitées dans leur taille pour que l'action de l'individu, ses décisions, ses choix, puissent y avoir des effets significatifs et perceptibles, des entreprises assez nombreuses aussi pour que l'individu ne soit pas dépendant d'une seule. Et enfin, il faut que la vie même de l'individu, avec par exemple son rapport à sa propriété privée, son rapport à sa famille, à son ménage, son rapport à ses assurances, son rapport à sa retraite, fasse de lui et de sa vie comme une sorte d'entreprise permanente et d'entreprise multiple. C'est donc cette réinformation de la société selon le modèle de l'entreprise, des entreprises, et ceci jusqu'en son grain le plus fin, c'est cela qui est un aspect de la Gesellschaftspolitik des ordo-libéraux allemands. Or, cette généralisation de la forme entreprise, quelle fonction a-t-elle ? D'un côté, bien sûr, il s'agit de démultiplier, si vous voulez, le modèle économique, le modèle offre et demande, le modèle investissement, coût, profit, etc., démultiplier ce modèle pour en faire un modèle des rapports sociaux, un modèle de l'existence même, une forme de rapport de l'individu à lui-même, au temps, à son entourage, à l'avenir, au groupe, à la famille, etc. Démultiplier ce modèle économique, c'est vrai. Mais d'un autre côté, cette idée des ordo-libéraux, de faire de l'entreprise ainsi le modèle social universellement généralisé. D'un autre côté, cette idée, elle sert de support dans leur analyse ou dans leur programmation, sert de support à ce qui est désigné par eux comme la reconstitution de toute une série de valeurs morales et culturelles qu'on pourrait dire des valeurs chaudes, et qui se présente justement comme antithétique du mécanisme froid de la concurrence. Car avec ce schéma de l'entreprise, ce qu'il s'agit de faire, c'est que l'individu ne soit plus, pour employer le vocabulaire qui était classique et à la mode à l'époque des ordo-libéraux, il ne soit plus aliéné par rapport et à son milieu de travail et au temps de sa vie, et à son ménage, et à sa famille, et à son milieu naturel, etc. Il s'agit de reconstituer autour de l'individu des points d'ancrage concrets, des points d'ancrage concrets qui constituent ce que Rustorf appelait précisément, enfin, reconstitution de points d'ancrage, qui forment ce que Rustorf appelait la vitale politique. Le retour à l'entreprise, c'est à la fois donc une politique économique ou une politique d'économisation du champ social tout entier, de virage à l'économie du champ social tout entier, mais c'est en même temps une politique qui se présente ou se veut comme une vitale politique qui aura pour fonction de compenser ce qu'il y a de froid, d'impassible, de calculateur, de rationnel, de mécanique dans le jeu de la concurrence proprement économique. La société d'entreprise dont rêvent les ordo-libéraux est donc une société pour le marché et une société contre le marché. Une société orientée vers le marché, mais une société qui soit telle que les effets de valeur, les effets d'existence provoqués par le marché soient par là compensés. C'est ce que Rustorf, dans le colloque Walter Lippmann, dont je vous parlais il y a quelque temps. C'est ce que Rustov disait à ce moment-là, quand il disait « Si on organise l'économie du corps social d'après les règles de l'économie de marché, l'économie du corps social, donc organisée selon les règles de l'économie de marché, c'est cela qu'il faut faire, mais il n'en reste pas moins qu'il faut encore satisfaire des besoins d'intégration nouveaux et accrus. C'est cela la vitale politique. » Röpke, un peu après, disait ceci, la concurrence est un principe d'ordre dans le domaine de l'économie de marché, mais non un principe sur lequel il serait possible d'ériger la société tout entière. Moralement et sociologiquement, la concurrence est un principe plutôt dissolvant qu'unifiant. Il faut donc, tout en mettant en place une politique telle que la concurrence puisse économiquement jouer, il faut organiser un cadre politique et moral, dit Röpke. Un cadre politique et moral qui comporte quoi ? Premièrement, un État qui soit capable de se maintenir au-dessus des différents groupes concurrentiels et des différentes entreprises en concurrence des unes avec les autres. Il faut que ce cadre politique et moral assure une communauté non désagrégée et enfin qu'elle garantisse une coopération entre des hommes naturellement enracinés et socialement intégrés. Bon. Eh bien, par rapport à cette ambiguïté, si vous voulez, de l'ordolibéralisme allemand, le néolibéralisme américain se présente évidemment avec une radicalité autrement rigoureuse, ou autrement complète et exhaustive. Et dans le néolibéralisme américain, il s'agit bien, en effet, toujours, de généraliser la forme économique du marché. Il s'agit de la généraliser dans le corps social tout entier et de la généraliser jusque dans tout le système social qui, d'ordinaire, ne passe pas ou n'est pas sanctionné par des échanges monétaires. Cette généralisation, en quelque sorte absolue, cette généralisation illimitée de la forme de marché entraîne un certain nombre de conséquences ou comporte un certain nombre d'aspects, et ce sont deux de ces aspects que je voudrais retenir. Premièrement, la généralisation de la forme économique du marché, au-delà même des échanges monétaires, cette généralisation, dans le néolibéralisme américain, elle fonctionne comme principe d'intelligibilité, principe de déchiffrement des rapports sociaux et des comportements individuels. Ce qui veut dire ceci, c'est que l'analyse en termes d'économie de marché, en termes, comment on dit, d'offres et de demandes, cette analyse doit servir de schéma que l'on peut appliquer à des domaines non économiques. Et grâce à ce schéma d'analyse, cette grille d'intelligibilité, on va pouvoir faire apparaître dans des processus non économiques, dans des relations non économiques, dans des comportements non économiques, on va pouvoir faire apparaître un certain nombre de relations intelligibles qui ne seraient pas apparues comme cela. Une sorte d'analyse économiste du non économique. C'est ce qu'ils font pour un certain nombre de domaines. Vous avez la dernière fois à propos de l'investissement en capital humain évoqué quelques-uns de ces problèmes. Vous vous souvenez que, par exemple, dans l'analyse que les néolibéraux font du capital humain, ils essaient d'expliquer, par exemple, comment la relation mère-enfant, définie concrètement, caractérisée concrètement par le temps que la mère passe avec son enfant, la qualité des soins qu'elle lui donne, l'affection qu'elle lui témoigne, la vigilance avec laquelle elle suit son développement, son éducation, ses progrès non seulement scolaires, mais physiques, etc. La manière non seulement dont elle l'alimente, mais la manière dont elle stylise l'alimentation et le rapport alimentaire qu'elle a avec lui. Enfin, tout cela constitue pour les néolibéraux un investissement. Un investissement qui est mesurable en temps, un investissement qui va constituer quoi ? Un capital humain, le capital humain de l'enfant, lequel capital produira du revenu. Ce revenu sera quoi ? Le salaire de l'enfant lorsqu'il sera devenu adulte, eh bien pour la mère, elle qui a investi, quel revenu? Eh bien, disent les néolibéraux, un revenu psychique, qui sera la satisfaction que la mère prend à donner les soins à l'enfant et à voir que les soins ont en effet réussi. On peut donc analyser en termes d'investissement, de coût de capital, de profit du capital investi, de profit économique et de profit psychologique, tout ce rapport qu'on peut dire, si vous voulez, le rapport formatif ou le rapport éducationnel au sens très large du terme, entre la mère et l'enfant. De la même façon, étudiant alors le problème de la natalité et du caractère nettement plus malthusien des familles riches que des familles pauvres, ou des familles plus riches que des familles pauvres, c'est-à-dire plus il y a plus les revenus sont élevés, moins les familles sont nombreuses. Cette vieille loi que tout le monde connaît, les néolibéraux essaient de la reprendre et d'analyser en disant, mais enfin c'est tout de même paradoxal, puisqu'en termes strictement malthusiens, plus de revenus devraient permettre plus d'enfants. Ce à quoi ils disent, mais en fait, la conduite malthusienne de ces gens riches, est-ce que c'est un paradoxe économique? Est-ce qu'elle est due à des facteurs non économiques, d'ordre moraux, d'ordre éthique, d'ordre culturel, etc.? Pas du tout. C'est encore et toujours des facteurs économiques qui jouent, dans la mesure où des gens qui ont des revenus élevés sont des gens qui détiennent, comme le prouve le caractère élevé de leurs revenus, qui détiennent un capital humain élevé. Et le problème pour eux, c'est de transmettre à leurs enfants, non pas tellement un héritage au sens classique du terme, que cet autre élément, qui lui aussi lie les générations les unes avec les autres, mais sur un tout autre mode que l'héritage traditionnel, c'est la transmission du capital humain. Transmission et formation de capital humain, qui implique par conséquent, donc, on l'a vu, du temps de la part des parents, des soins éducationnels, etc., etc. Une famille riche, c'est-à-dire une famille à revenus élevés, c'est-à-dire une famille composée d'éléments qui a un capital humain élevé, aura donc pour projet économique immédiat et rationnel la transmission d'un capital humain au moins aussi élevé aux enfants, ce qui implique toute une série d'investissements, investissements financiers, investissements en temps aussi de la part des parents, et or ces investissements ne sont pas possibles si la famille est nombreuse. Et c'est donc la nécessité d'une transmission de capital humain au moins égale aux enfants que celle que détenaient les parents, c'est cela qui explique, selon les ordolibéraux, selon les néolibéraux américains, le caractère toujours, enfin, plus limité des familles riches que des familles pauvres. Bon, ils font, c'est toujours dans ce même projet d'analyser en termes économiques des types de relations qui jusqu'à présent relevaient plus de la démographie, de la sociologie, de la psychologie, sociale. C'est toujours dans cette perspective que les ordolibéraux, que les néolibéraux ont essayé d'analyser par exemple les phénomènes de mariage et de ce qui se passe à l'intérieur d'un ménage. C'est-à-dire la fondation la rationalisation proprement économique que constitue le mariage dans la coexistence des individus. Alors il y a là-dessus un certain nombre de travaux et une communication d'un économiste canadien qui s'appelle Jean-Luc Miguet et qui écrivait ceci, un texte qui mérite tout de même d'être lu. N'entrerai pas dans le reste de l'analyse, mais il dit ceci. Il dit l'une des grandes contributions récentes de l'analyse économique, se réfère à ces analyses des néolibéraux, des grandes contributions de cette analyse a été d'appliquer intégralement au secteur domestique le cadre analytique traditionnellement réservé à la firme et aux consommateurs. Il s'agit de faire du ménage une unité de production au même titre que la firme classique. Qu'est-ce en effet que le ménage, sinon l'engagement contractuel des deux parties à fournir des inputs spécifiques et à partager dans des proportions données les bénéfices de l'output des ménages. Le contrat à long terme qui est établi entre des gens qui vivent en ménage et sous forme matrimoniale, ce contrat à long terme Il a quel sens? Qu'est-ce qui le justifie économiquement? Qu'est-ce qui le fonde? Eh bien, c'est que ce contrat à long terme entre époux permet d'éviter de renégocier à chaque instant et sans cesse les contrats innombrables qui devraient être passés pour faire fonctionner la vie domestique. Passe-moi le sel, je te donne le poivre. C'est ce type-là de négociation. Ce type-là de négociation se trouve résolu en quelque sorte par un contrat à long terme qui est le contrat même de mariage et qui permet de faire ce que les néolibéraux appellent, enfin je crois d'ailleurs que ce n'est pas qu'eux qui appellent ça comme ça, une économie au niveau des coûts de transaction. S'il fallait faire transaction pour chacun de ces gestes, il y aurait là un coût en temps, donc un coût économique qui serait absolument insurmontable pour les individus, il se trouve résolu par le contrat de mariage. Ceci peut paraître drôle, mais ceux d'entre vous qui connaissent le texte laissé par Pierre Rivière avant sa mort, et où il décrit comment vivaient ses parents, vous vous apercevez qu'en effet, la vie matrimoniale d'un couple de paysans au début du XIXe siècle était perpétuellement tissée et tramée de toute une série de transactions. « Je vais labourer ton champ, dit l'homme à la femme, mais à condition que je puisse faire l'amour avec toi. » Et la femme dit, tu ne feras pas l'amour avec moi tant que tu n'auras pas nourri mes poules, etc. On voit apparaître dans un processus comme celui-là une sorte de perpétuelle transaction dont le contrat de mariage devait sans doute constituer, par rapport auquel le contrat de mariage devait constituer une espèce de forme d'économie globale qui permettait de n'avoir pas à renégocier à chaque instant. Et d'une certaine manière, le rapport entre le père et la mère, entre l'homme et la femme, n'était pas autre chose que le déroulement quotidien de cette espèce de contractualisation de la vie commune. Et en ceci, tous ces conflits n'étaient pas autre chose que l'actualisation du contrat. Mais en même temps, le contrat ne jouait pas son rôle puisqu'il n'avait pas, de fait, évité l'économie du coût de transaction qu'il aurait dû assurer. Non. Disons qu'on a là, dans ces analyses économistes des néolibéraux, une tentative de déchiffrement, donc en termes économiques, de comportements sociaux traditionnellement non économiques. La deuxième utilisation intéressante de ces analyses des néolibéraux, c'est que la grille économique doit pouvoir permettre de tester l'action gouvernementale, jauger sa validité, permettre d'objecter à l'activité de la puissance publique ses abus, ses excès, ses inutilités, ses dépenses pléthoriques. Bref, il s'agit, avec l'application de la grille économiste, non plus cette fois de faire comprendre des processus sociaux et de les rendre intelligibles, il s'agit d'ancrer et de justifier une critique politique permanente de l'action politique et de l'action gouvernementale. Il s'agit de filtrer toute l'action de la puissance publique en termes de jeu d'offres et de demandes, en termes d'efficacité sur les données de ce jeu, en termes de coûts impliqué par cette intervention de la puissance publique dans le champ des marchés. Il s'agit en somme de constituer, par rapport à la gouvernementalité effectivement exercée, une critique qui ne soit pas une critique simplement politique, qui ne soit pas une critique simplement juridique, c'est une critique marchande. Le cynisme d'une critique marchande opposée à l'action de la puissance publique. Cela, ce n'est pas simplement un projet en l'air ou une idée de théoricien. Il y a aux États-Unis un exercice permanent de ce type-là de critique qui a été surtout développé dans une institution qui n'était pas destinée à cela d'ailleurs, puisqu'elle avait été créée avant le développement de l'école néolibérale, avant le développement de l'école de Chicago. C'est une institution qui s'appelle American Enterprise Institute et qui maintenant a pour fonction essentielle de jauger en termes de coûts et de bénéfices, toutes les activités publiques, qu'il s'agisse de ces fameux grands programmes sociaux, par exemple concernant l'éducation, concernant la santé, concernant la ségrégation raciale, ces grands problèmes sociaux que l'administration Kennedy et l'administration Johnson avaient mis au point au cours de la décennie 60-70. Il s'agit aussi, dans ce type-là de critique, de jauger l'activité des nombreuses agences fédérales qui, depuis le New Deal et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont établies, comme par exemple l'administration pour la nourriture et la santé, la Federal Trade Commission, etc. etc. Bon, donc, critiquer dans la forme de ce qu'on pourrait appeler un positivisme économique, critiquer en permanence la politique gouvernementale. On ne peut pas ne pas penser, en voyant s'exercer ce type-là de critique, à une analogie que je laisse, encore une fois, sous la forme d'analogie, c'est la critique positiviste du langage quotidien. Quand vous prenez la manière dont les Américains ont utilisé la logique, le positivisme logique de l'école de Vienne pour l'appliquer au discours, que ce soit d'ailleurs le discours scientifique, le discours philosophique ou le discours quotidien, vous y voyez là aussi une espèce de filtrage de tout énoncé, quel qu'il soit, en termes de contradictions, de défauts de consistance, de non-sens, etc. Bien, on peut dire jusqu'à un certain point que la critique économiste que les néolibéraux essaient d'appliquer à la politique gouvernementale, c'est bien là aussi de filtrer toute action de la puissance publique en termes de contradictions, en termes de défauts de consistance, en termes de non-sens, etc. La forme générale du marché devient un instrument, un outil de discrimination dans le débat avec l'administration. Autrement dit, dans le libéralisme classique, on demandait au gouvernement de respecter la forme du marché et de laisser faire. Là, on retourne le laisser faire en un ne pas laisser faire le gouvernement, ne pas laisser faire le gouvernement au nom d'une loi de marché qui va permettre de jauger et d'apprécier chacune de ces activités. Le laisser-faire se retourne ainsi, et le marché n'est plus un principe d'auto-limitation du gouvernement, c'est un principe qu'on retourne contre lui. C'est une sorte de tribunal économique permanent en face du gouvernement. Alors que le 19e siècle avait cherché à établir en face et contre des mesures de l'action gouvernementale, une sorte de juridiction administrative qui permettait de jauger l'action de la puissance publique en termes de droit, on a là une sorte de tribunal économique qui prétend jauger l'action du gouvernement en termes strictement d'économie et de marché. Bon, ces deux aspects, analyse de comportement non économique à travers une grille d'intelligibilité économiste. Critique et estimation de l'action de la puissance publique en termes de marché, ce sont ces deux traits-là qui se retrouvent dans l'analyse que certains néolibéraux ont fait de la criminalité et du fonctionnement de la justice pénale. Et c'est à titre d'exemple de ces deux usages que j'évoquais tout à l'heure de l'analyse économique, à titre d'exemple de ces deux usages que je voudrais maintenant vous parler de la manière dont quelques néolibéraux, la manière dont ils ont repris le problème de la criminalité dans une série d'articles de Ehrlich, de Stigler et de Gary Becker. Premièrement, bon, alors comment est-ce qu'ils font ? L'analyse qu'ils font de la criminalité apparaît comme, au départ, un retour le plus simple possible, aux réformateurs du XVIIIe siècle, à Beccaria et surtout à Bentham. Et c'est vrai qu'après tout, quand on reprend le problème de la réforme du droit pénal à la fin du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que la question qui était posée par les réformateurs, c'était bien une question d'économie politique, au sens où il s'agissait d'une analyse économique, ou d'une réflexion en tout cas de style économique sur la politique ou sur l'exercice du pouvoir. Il s'agissait de calculer économiquement, ou en tout cas de critiquer ou non, d'une logique et d'une rationalité économique, le fonctionnement de la justice pénale tel qu'on pouvait le constater et l'observer au XVIIIe siècle. De là, si vous voulez, dans un certain nombre de textes, plus net chez Bentham bien sûr que chez Beccaria, net aussi chez des gens comme Colquhoun, des considérations grossièrement chiffrées sur le coût de la délinquance, combien ça coûte à un pays ou à une ville en tout cas, que les voleurs puissent courir comme ils le veulent. Le problème aussi du coût de la pratique judiciaire elle-même et de l'institution judiciaire telle qu'elle fonctionne, critique aussi portant sur le peu d'efficacité du système punitif, le fait par exemple que les supplices ou le bannissement, etc., n'avaient aucun effet sensible sur la baisse de taux de criminalité, dans la mesure où on pouvait à cette époque-là les estimer. Mais enfin, il y avait une grille économique qui courait sous le raisonnement critique des réformateurs du XVIIIe siècle. J'y ai insisté, je ne reviens pas. En filtrant ainsi toute la pratique pénale à travers un calcul d'utilité, ce que cherchaient les réformateurs, c'était précisément de trouver un système de légalité, un système, pardon, pénal dont le coût, dans tous les sens que je viens d'évoquer, soit le plus bas possible. Et je crois qu'on peut dire que la solution choisie par Beccaria, esquissée par Beccaria, soutenue par Bentham, choisie finalement par les législateurs et les codificateurs de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, la solution c'était quoi? Eh bien c'était une solution légaliste. Ce grand souci de la loi, ce principe sans cesse rappelé que pour qu'un système pénal fonctionne bien, il faut, et à la limite, il suffit presque d'une bonne loi, ce n'était pas autre chose que d'une sorte de volonté de rechercher ce qu'on appellerait en termes économiques justement la baisse du coût de transaction. La loi, c'est la solution la plus économique pour bien punir les gens et pour que cette punition soit efficace. Premièrement, on va définir le crime comme une infraction à une loi formulée. Deuxièmement, donc, jamais de crime et impossibilité d'incriminer un acte tant qu'il n'y a pas une loi. Deuxièmement, les peines doivent être fixées, et fixées une fois pour toutes, par la loi. Troisièmement, ces peines doivent être, dans la loi même, fixées selon une gradation qui suit la gravité même du crime. Quatrièmement, le tribunal n'aura donc plus désormais, tribunal pénal, n'aura plus désormais qu'une chose à faire, c'est appliquer au crime tel qu'il a été établi et prouvé, une loi qui détermine à l'avance quelle est la peine que le criminel doit subir en fonction de la gravité de son crime. Mécanique absolument simple, mécanique apparemment tout à fait évidente, qui constitue la forme la plus économique, c'est-à-dire la moins coûteuse et la plus certaine, pour obtenir la punition et l'élimination des conduites considérées comme nuisibles pour la société. La loi, le mécanisme de la loi, ont, je crois, été retenus à la fin du XVIIIe siècle comme principe d'économie, au sens à la fois large et précis du mot économie, comme principe d'économie dans le pouvoir pénal. L'homo pénalis, l'homme qui est pénalisable, l'homme qui s'expose à la loi et qui peut être puni par la loi, cet homo pénalis est au sens strict un homo economicus. Et c'est la loi qui permet précisément d'articuler le problème de la pénalité sur le problème de l'économie. Bon, il s'est trouvé de fait, au cours du XIXe siècle, que cette économie a conduit à un effet paradoxal. Cet effet paradoxal, quel en est le principe, quelle en est la raison? Eh bien, une ambiguïté qui est due au fait que la loi, comme forme générale de l'économie pénale, était évidemment indexée sur les actes d'infraction. La loi ne sanctionne que des actes, bien sûr. Mais d'un autre côté, les principes de l'existence de la loi pénale, autrement dit, la nécessité de punir, la gradation aussi dans la punition, l'application effective de la loi pénale n'avait de sens que dans la mesure, bien sûr, on ne punissait pas un acte, car ça n'a pas de sens de punir un acte. N'avait de sens que dans la mesure où on punit un individu infracteur, qu'il s'agit de punir, d'amender, de donner en exemple à d'autres infracteurs possibles, etc. Si bien que dans cet équivoque entre une forme de la loi qui définit un rapport avec l'acte, et une application effective de la loi qui ne peut viser qu'un individu, dans cet équivoque, entre le crime et le criminel, eh bien, on voit comment a pu se dessiner une ligne de pente interne à tout le système, une ligne de pente interne à tout le système, vers quoi ? Eh bien, vers une modulation de plus en plus individualisante de l'application de la loi, et par conséquent, réciproquement, une problématisation psychologique, sociologique, anthropologique de celui auquel on applique la loi. C'est-à-dire que l'homo pénalis est en train de dériver tout au long du XIXe siècle vers ce qu'on pourrait appeler l'homo criminalis. Et quand la criminologie se constitue à la fin du XIXe siècle, un siècle précisément après la réforme préconisé par Beccaria et schématisé par Bentham, eh bien, lorsque l'homo criminalis se constitue un siècle après cela, eh bien, on est arrivé en quelque sorte au bout de l'équivoque et l'homo légalis, l'homo pénalis, est repris ainsi à travers toute une anthropologie du crime qui substitue bien sûr à la rigoureuse et très économique mécanique de la loi, eh bien, toute une inflation. Une inflation de savoir, une inflation de connaissances, une inflation de discours, une multiplication des instances, des institutions, des éléments de décision, et tout le parasitage de la sentence au nom de la loi par des mesures individualisantes en termes de normes. De sorte que le principe économique de la référence à la loi et de la mécanique pure de la loi, eh bien, cette économie rigoureuse plutôt, a mené à toute une inflation à l'intérieur duquel le système pénal n'a pas cessé de patauger depuis la fin du XIXe siècle. Bon, voilà en tout cas comment moi je verrais les choses en me tenant au plus près de ce que pourraient dire les néolibéraux sur ce évolution. Bon. Alors, l'analyse des néolibéraux, qui ne tiennent pas compte de cette. Qui ne se préoccupent pas de ce problème d'histoire. L'analyse des néolibéraux, donc celle de Gary Becker, c'est donc dans un article qui s'appelle Crime et punition, et qui est apparu dans le Journal of Political Economy en 1968, consiste à reprendre au fond ce filtre utilitaire, qui avait été celui de Beccaria, de Bentham, etc., en essayant, dans toute la mesure du possible, cette série de glissements qui avait fait qu'on était passé de l'homo economicus à l'homo legalis, à l'homo pénalis et finalement à l'homo criminalis, sans tenir, dans toute la mesure du possible, grâce à une analyse qui serait purement économique, sans tenir à un homo economicus et voir comment le crime peut être, la criminalité peut être analysée à partir de là. Autrement dit, essayer de neutraliser tous ces effets qui viennent du moment où on a voulu, ce qui était le cas de Beccaria, ce qui était le cas de Bentham, repenser les problèmes économiques et leur donner forme à l'intérieur d'un cadre juridique qui serait absolument adéquat. Autrement dit, là encore, je ne dis pas ce qu'ils disent puisque c'est pas leur problème, leur histoire, c'est pas leur problème, mais je crois qu'ils pourraient dire, les néolibéraux ceci, que la faute. Le principe du glissement dans le droit pénal du XVIIIe siècle a été cette idée de Beccaria et de Bentham que le calcul utilitaire pouvait prendre adéquatement forme à l'intérieur d'une structure juridique. Et au fond, ça a bien été un des enjeux ou un des rêves de toute la critique politique et de tous les projets politiques de la fin du XVIIIe siècle, l'utilité prenant forme dans le droit et le droit se bâtissant entièrement à partir d'un calcul d'utilité. le droit, l'histoire du droit pénal a montré que cette adéquation ne pouvait pas être faite. Il faut donc maintenir le problème de l'homo economicus sans viser à traduire immédiatement cette problématique dans les termes et dans les formes d'une structure juridique. Bon, alors comment est-ce qu'ils font pour analyser, maintenir l'analyse de ce problème du crime à l'intérieur d'une problématique économique? Premièrement, définition du crime. C'est Becker, dans son article Crime et châtiment, qui donne cette définition du crime. J'appelle crime toute action qui fait courir à un individu le risque d'être condamné à une peine. Bon. Je suis surpris que vous riez parce que c'est tout de même à très peu de choses près la définition que le code pénal français, et par conséquent tous les codes qui en sont inspirés, donne du crime, puisque vous savez bien que le code pénal, comment est-ce qu'il définit un délit? Il dit, le délit, c'est ce qui est puni par des peines correctionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'un crime? Le code pénal, ce code pénal qui est le vôtre, c'est ce qui est puni, un crime, c'est ce qui est puni par des peines afflictives et infamantes. Autrement dit, le code pénal ne donne aucune définition substantielle, aucune définition qualitative, aucune définition morale du crime. Le crime, c'est ce qui est puni par la loi, point, c'est tout. Donc, vous voyez que la définition des néolibéraux est tout proche. C'est ce qui fait courir un individu le risque d'être condamné à une peine. C'est tout proche, avec cependant, vous le voyez, une différence. Une différence qui est une différence de point de vue. Puisque le code, lui, tout en évitant de donner une définition substantielle du crime, se place du point de vue de l'acte et se demande qu'est-ce que c'est que l'acte. Enfin, comment caractériser un acte qu'on peut dire criminel? C'est-à-dire qu'il est puni précisément comme crime. C'est le point de vue de l'acte. C'est une espèce de caractérisation opératoire, en quelque sorte utilisable par le juge. Vous devrez considérer comme crime tout acte qui se trouve puni par la loi. Définition objective opératoire faite du point de vue du juge. Quand les néolibéraux disent le crime, c'est toute action qui fait courir à un individu le risque d'être condamné à une peine, vous voyez simplement que la définition est la même, mais le point de vue a simplement changé. On se place du point de vue de celui qui commet le crime, en gardant le contenu même de la définition, on se place du point de vue de celui qui commet le crime ou qui va commettre le crime, on se pose la question, qu'est-ce que c'est pour lui? C'est-à-dire pour le sujet d'une action, pour le sujet d'une conduite ou d'un comportement, qu'est-ce que c'est que le crime? Eh bien, c'est cette chose qui fait qu'il risque. Et à propos du capital humain et du travail, la dernière fois, j'essayais de vous montrer comment les néolibéraux, reprenant le problème du travail, essayaient de ne plus le penser du point de vue du capital, ou du point de vue, si vous voulez, de la mécanique et du processus économique, mais du point de vue de celui qui prend la décision de travailler. On passe donc là aussi du côté du sujet individuel, mais en passant du côté du sujet individuel, on n'y précipite pas pour autant un savoir psychologique, un contenu anthropologique, tout comme quand on parlait du travail du point de vue du travailleur, on ne faisait pas une anthropologie du travail. On ne passe du côté du sujet lui-même que dans la mesure où on peut déchiffrer dans le sujet, on reviendra d'ailleurs là-dessus parce que c'est très important, je vous dis la chose là simplement d'une façon encore très grossière, pour ne voir dans le sujet ou ne prendre le sujet que par le biais, l'aspect, l'espèce de réseau d'intelligibilité de son comportement qui fait que c'est un comportement économique. On ne prend le sujet que en tant que homo economicus. Ce qui ne veut pas dire que le sujet tout entier est considéré comme homo economicus. Autrement dit, la prise en compte du sujet comme homo economicus n'implique pas une assimilation anthropologique de tout comportement, quel qu'il soit, avec un comportement économique. Cela veut dire simplement que la grille d'intelligibilité que l'on va se donner sur le comportement de l'individu est celle-là. Ce qui veut dire aussi que ce par quoi l'individu va devenir gouvernementalisable, ce par quoi on va pouvoir avoir prise sur lui, c'est en la mesure et dans la mesure seulement où il est économique, homo economicus. C'est-à-dire que la surface de contact entre l'individu et le pouvoir qui s'exerce sur lui, le principe, par conséquent, de régulation du pouvoir sur l'individu ne va être que cette espèce de grille de l'homo economicus. L'homo economicus, c'est l'interface du gouvernement et de l'individu. Et ça ne veut pas dire du tout que tout individu, tout sujet est un homme économique. Bon, on va passer du côté du sujet individuel en le considérant comme homo economicus. Avec ceci pour conséquence, c'est que vous voyez bien que si on définit ainsi le crime comme l'action que commet un individu en prenant le risque d'être puni par la loi, vous voyez qu'il n'y a alors là aucune différence entre une infraction au code de la route et un meurtre prémédité. Ça veut dire également que le criminel n'est aucunement dans cette perspective marqué ou interrogé à partir de traits moraux ou anthropologiques. Le criminel n'est rien d'autre que absolument n'importe qui. Le criminel, c'est toute personne. Enfin, il est assimilable et il n'est traité que comme n'importe quelle autre personne qui investit dans une action, qui en attend du profit et qui accepte le risque d'une perte. Le criminel, de ce point de vue-là, n'est rien d'autre et ne doit rester rien d'autre que ça. Dans cette mesure-là, vous voyez que le système pénal, ce dont le système pénal aura à s'occuper, ce n'est plus de cette réalité dédoublée du crime et du criminel, c'est une conduite, c'est une série de conduites qui produisent des actions, lesquelles actions, dont les acteurs attendent un profit, sont affectées d'un risque spécial, qui n'est pas simplement celui de la perte économique, mais qui est celui du risque pénal, ou encore de cette perte économique qui est infligée par un système pénal. Le système pénal lui-même aura donc affaire non pas à des criminels, mais à des gens qui produisent ce type-là d'action. Il aura autrement dit à réagir à une offre de crime. Alors qu'est-ce que va être la punition dans ces conditions-là? Eh bien, la punition, là encore je me réfère à la définition de Becker, c'est le moyen utilisé pour limiter les externalités négatives de certains actes. Là encore, vous voyez qu'on est tout près de Beccaria, ou de Bentham, de toute cette problématique du XVIIIe siècle, dans laquelle, vous savez, la punition se justifiait par le fait que l'acte puni était nuisible, et que c'était pour cela même qu'on avait fait une loi. C'était également ce même principe de l'utilité qui devait être appliqué à la mesure de la punition. On devait punir de telle manière que les effets nocifs de l'action puissent être ou annulés ou prévenus. Bon. Donc là encore, on est toujours tout près de la problématique du XVIIIe siècle, mais avec là aussi un changement qui est important. Alors que la théorie classique essayait simplement d'articuler les uns sur les autres différents effets hétérogènes attendus de la punition, c'est-à-dire le problème de la réparation qui est un problème civil, le problème de l'amendement de l'individu, le problème de la prévention par rapport aux autres individus, etc. Les néolibéraux, eux, vont faire une désarticulation différente de la punition. Et ils distinguent deux choses. Enfin, ils ne font que reprendre, au fond, une problématique qui est courante dans la pensée ou dans la réflexion juridique anglo-saxonne. Ils disent, d'une part, il y a la loi. Mais qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, ce n'est rien d'autre qu'un interdit. Et la formulation de l'interdiction, d'une part, bien sûr, c'est une réalité institutionnelle. On pourrait dire, si vous voulez, en se référant à une autre problématique, c'est un speech act qui a un certain nombre d'effets. Cet acte a d'ailleurs un certain coût lui-même, puisque la formulation de la loi implique un parlement et une discussion et des décisions prises, etc. C'est en effet une réalité, mais ce n'est que cette réalité-là. Et puis, il y a d'un autre côté. L'ensemble des instruments par lesquels on va donner à cette interdiction une force réelle. Cette idée d'une force de la loi, elle est traduite, vous le savez, par ce mot qu'on rencontre si souvent de « enforcement », pardonnez la traduction, et qu'on traduit souvent par le renforcement de la loi. C'est pas ça. L'enforcement of law, c'est plus que l'application de la loi, puisqu'il s'agit de toute une série d'instruments réels qu'on est obligé de mettre en œuvre pour appliquer la loi. Mais ce n'est pas le renforcement de la loi, c'est moins que le renforcement de la loi, dans la mesure où renforcement voudrait dire qu'elle est trop faible et qu'il faut rajouter un petit supplément ou la rendre plus serrée. l'enforcement of law, c'est l'ensemble des instruments mis en œuvre pour donner à cet acte d'interdiction, en quoi consiste la formulation de la loi, réalité sociale, réalité politique, etc. Ces instruments de l'enforcement de la loi, pardonnez le néologisme de la transcription, ces instruments de l'enforcement de la loi, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la quantité de punition prévue pour chacun des crimes, ça va être l'importance, l'activité, le zèle, la compétence de l'appareil chargé de détecter les crimes, ça va être l'importance, la qualité, etc., de l'appareil chargé de convaincre les criminels et d'apporter les preuves, effectivement, qu'ils ont commis le crime, ça va être la plus ou moins grande rapidité des juges à juger, la plus ou moins grande sévérité des juges dans les marges qui leur sont fixées par la loi, ça va être aussi la plus ou moins grande efficacité de la punition, la plus ou moins grande fixité de la peine appliquée, selon que l'administration pénitentiaire peut modifier, atténuer, éventuellement aggraver, etc. C'est tout cet ensemble de choses qui constituent l'enforcement de la loi. Tout ce qui, par conséquent, va répondre à l'offre de crime comme conduite, etc., dont je vous ai parlé, tout ce qui va répondre à l'offre de crime par ce qu'on appelle une demande négative. L'enforcement de la loi, c'est l'ensemble des instruments d'action sur le marché du crime qui opposent à l'offre de crime une demande négative. Donc, or cet enforcement de la loi, bien sûr, il n'est ni neutre, ni indéfiniment extensif. Et ceci pour deux raisons corrélatives, qui est bien sûr, d'abord, la première, c'est que l'offre de crime n'est pas indéfiniment et uniformément élastique, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas de la même façon à toutes les formes et tous les niveaux de demande négative qui lui est opposée. Enfin, tout ceci, pour dire les choses de façon très simple, vous avez certaines formes de crime ou certaines tranches de comportement criminel qui cède très facilement à une modification ou à une très légère intensification de la demande négative. Prendre l'exemple le plus courant, soit un magasin grande surface dans lequel 20% du chiffre d'affaires, je dis ça tout à fait arbitrairement, est détourné par le vol, il est facile, sans beaucoup de frais, ni de surveillance, ni d'enforcement excessif de la loi, il est très facile d'effacer les 10% au-dessus de 10. Entre 5 et 10%, c'est encore relativement facile. Arriver à faire baisser au-dessous de 5, ça devient très difficile, au-dessous de 2, etc. Bon, de la même façon, si vous voulez, les crimes passionnels, il est certain qu'il y a toute une première tranche de crimes passionnels qu'on peut faire relativement disparaître. En facilitant le divorce, et puis vous avez un noyau de crimes passionnels que le laxisme au niveau des lois sur le divorce ne changera pas. Bon, donc, l'élasticité, c'est-à-dire le changement de l'offre par rapport aux effets de la modification de l'offre par rapport aux effets de la demande négative, ne sont pas homogènes, selon les différentes tranches ou différents types d'actions criminelles. Deuxièmement, et c'est là un autre aspect, cet enforcement qui était absolument lié au premier, cet enforcement lui-même, il a un coût et il a des externalités négatives. Il a un coût, c'est-à-dire qu'il demande une rémunération alternative. Tout ce que vous investirez dans l'appareil d'enforcement de la loi, vous ne pourrez pas l'utiliser ailleurs. Rémunération alternative, ça va de soi. Et il a un coût, c'est-à-dire qu'il comporte des inconvénients politiques, des inconvénients sociaux, etc. Donc une politique pénale ne va pas avoir pour objectif ou pour point de mire ce qui était l'objectif et le point de mire de tous les réformateurs du XVIIIe siècle quand ils mettaient au point leur système de la légalité universelle, à savoir la disparition totale du crime. La loi pénale et toute la mécanique pénale à laquelle rêvait Bentham devait être telle qu'au bout du compte, même si dans la réalité ça ne pouvait pas arriver, mais au bout du compte, l'objectif c'était tout de même qu'il n'y ait plus de crime. Et l'idée du panoptique, l'idée d'une transparence, l'idée d'un regard qui porte sur chacun des individus, l'idée d'une gradation des peines suffisamment subtile pour que chaque individu dans son calcul, dans son fort intérieur, dans son calcul économique puisse se dire non, de toute façon, si je fais ce crime, la peine que j'encours est trop importante et par conséquent je ne commets pas ce crime, cette espèce d'annulation générale du crime était en ligne de mire et était principes de rationalité et de calcul, principes organisateurs du calcul pénal dans les, pour les réformateurs du XVIIIe siècle. Là, au contraire, la politique pénale ne doit, doit absolument renoncer à titre d'objectif à cette suppression, à cette annulation exhaustive du crime. La politique pénale a pour principe régulateur une simple intervention sur le marché du crime et par rapport à l'offre de crime. C'est une intervention qui limitera l'offre de crime et le limitera seulement, et le limitera par une demande négative dont le coût ne devra évidemment jamais dépasser le coût de cette criminalité dont il s'agirait de limiter l'offre. C'est la définition que donne Stigler de l'objectif d'une politique pénale. L'enforcement, dit-il, de la loi a pour but d'obtenir un degré de conformité à la règle du comportement prescrit que la société croit pouvoir se procurer en tenant compte du fait que l'enforcement est coûteux. C'est dans le Journal of Political Economy de 1970. Vous voyez qu'à ce moment-là, la société apparaît comme consommatrice. La société apparaît comme consommatrice de comportements conformes, c'est-à-dire, si vous voulez, selon la théorie néolibérale de la consommation, la société apparaît comme productrice de comportements conformes qui la satisfont, moyennant un certain investissement. En conséquence, la bonne politique pénale ne vise aucunement à une extinction du crime, mais à un équilibre entre des courbes d'offres positives de crime, enfin d'offres de crime et de demandes négatives. Ou encore, la société n'a pas un besoin indéfini de conformité. La société n'a aucunement besoin d'obéir à un système disciplinaire exhaustif. Une société se trouve bien avec un certain taux d'illégalisme et elle se trouverait très mal de vouloir réduire indéfiniment ce taux d'illégalisme. Ce qui revient encore à poser comme question essentielle de la politique pénale, non pas comment punir les crimes, ni même quelles sont les actions qu'il faut considérer comme crimes, mais qu'est-ce qu'il faut tolérer comme crime, ou encore qu'est-ce qu'il serait intolérable de ne pas tolérer. C'est la définition de Becker, donc crime et punition, crime et châtiment. Deux questions, dit-il. Combien de délits doivent être permis? Deuxièmement, combien de délinquants doivent être laissés impunis? C'est ça la question de la pénalité. Concrètement, ça donne quoi? Bon, alors, il n'y a pas beaucoup d'analyses faites dans ce style-là. Il y a une analyse de Ehrlich sur la peine de mort et dans laquelle il conclut que finalement la peine de mort c'est tout de même assez utile. Mais enfin bon, laissons ça. Non, mais je veux dire, ce genre-là d'analyse n'est sans doute ni le plus intéressant ni le plus efficace par rapport à l'objet qu'il traite. En revanche, il est certain que sur certains domaines, et en particulier là où la criminalité touche le plus et le mieux au phénomène de marché, c'est là que les résultats sont tout de même un peu plus intéressants, ou en tout cas un peu plus intéressants à discuter. C'est essentiellement évidemment le problème de la drogue, qui étant en elle-même un phénomène de marché, relève d'une analyse économique, d'une analyse économique de la criminalité beaucoup plus accessible, beaucoup plus immédiate. La drogue donc se présente comme un marché, et disons que jusqu'aux années 1970 à peu près, la politique de l'enforcement de la loi par rapport à la drogue, cette politique de l'enforcement, elle visait quoi? Eh bien, elle visait essentiellement à réduire l'offre de drogue. Réduire l'offre de drogue, l'offre de crime de drogue, de délinquance de drogue. Et réduire cette offre, ça voulait dire quoi? Eh bien, ça voulait bien entendu dire réduire la quantité de drogue apportée sur le marché. Et réduire la quantité de drogue apportée sur le marché, ça voulait dire quoi? Eh bien, contrôler et démanteler les réseaux de raffinage. Deuxièmement, contrôler et démanteler les réseaux de distribution. Or, cette politique des années 60, on sait parfaitement à quel résultat elle a abouti, en démantelant, et jamais exhaustivement bien sûr, pour des raisons alors sur lesquelles on pourrait discuter, n'est-ce pas, en démantelant partiellement les réseaux de raffinage et de distribution, qu'est-ce que ça a fait? Premièrement, ça a augmenté le prix unitaire de la drogue. Deuxièmement, ça a favorisé et renforcé la situation de monopole ou d'oligopole d'un certain nombre de gros vendeurs, de gros trafiquants et de gros réseaux de raffinage et de distribution de drogue, avec comme effet de monopole ou d'effet oligopolistique une montée des prix dans la mesure où on ne respectait pas les lois du marché et de la concurrence. Et enfin, et troisièmement, autre phénomène alors plus important au niveau de la criminalité proprement dite, c'est que la consommation de drogue, au moins pour les intoxiqués sérieux et pour un certain nombre de drogues, cette demande de drogue est absolument inélastique. C'est-à-dire que quel que soit le prix, le drogué voudra trouver sa marchandise et sera prêt à la payer de n'importe quel prix. Et c'est cette inélasticité de toute une couche de la demande de drogue qui va faire que la criminalité va augmenter. En termes clairs, qu'on va buter quelqu'un dans la rue pour lui prendre $10, avec quoi s'acheter la drogue dont on a besoin. De sorte que, de ce point de vue-là, la législation, le style de législation, plutôt, le style d'enforcement de la loi qui avait été développé au cours des années 60, s'est avéré être un échec sensationnel. De là, la seconde solution, qui est formulée en termes d'économie libérale par Iverley et Moore en 1973, ils disent « Il est absolument fou de vouloir limiter l'offre de drogue, il faut déplacer vers la gauche l'offre de drogue, c'est-à-dire, très globalement, très grossièrement, faire en sorte que la drogue soit plus accessible et moins coûteuse, avec cependant les modulations et les précisions suivantes. » En effet, qu'est-ce qui se passe dans le marché réel de la drogue? C'est qu'on a donc deux catégories, au fond, d'acheteurs et de demandeurs. Ceux qui commencent à consommer de la drogue et dont la demande est élastique, c'est-à-dire qui peuvent buter devant des prix trop élevés et renoncer à une consommation dont on a promis bien des plaisirs, mais qui ne peuvent pas se payer. Et puis, vous avez la demande inélastique, c'est-à-dire ceux qui, de toute façon, et quelquefois plus, achèteront. Bon, alors, l'attitude des trafiquants de drogue, ça consiste en quoi? À mettre sur le marché, ou plutôt à offrir un prix de marché relativement bas aux consommateurs dont la demande est élastique, c'est-à-dire aux débutants, c'est-à-dire aux petits consommateurs, et une fois seulement qu'ils sont devenus des consommateurs habituels, c'est-à-dire que leur demande est devenue inélastique, à ce moment-là, on fait monter les prix. Et les drogues qu'on leur fournit à ce moment-là, on se trouve à avoir des prix monopolistiques extrêmement élevés qui induisent donc ces phénomènes de criminalité. Alors, quelle doit être l'attitude de ceux qui orientent la politique d'enforcement de la loi? Eh bien, il va falloir au contraire faire que ce qu'on appelle les prix d'entrée, c'est-à-dire les prix pour les nouveaux consommateurs, soient le plus élevés possible, de manière que le prix soit en lui-même une arme de dissuasion et que les petits consommateurs, que les consommateurs éventuels ne puissent pas, à cause d'un problème de seuil économique, franchir le pas de la consommation. Et en revanche, pour ceux dont la demande est inélastique, c'est-à-dire qui de toute façon paieront n'importe quel prix, à ceux-là, donner la drogue au meilleur prix possible, c'est-à-dire au plus bas prix possible, pour qu'ils ne soient pas obligés, puisque de toute façon ils le feront, de se procurer de l'argent à n'importe quel moyen pour acheter leur drogue. Autrement dit, que leur consommation de drogue soit le moins criminogène possible. Et il faut donc aux drogués des drogues de bas prix et aux non-drogués des drogues de très haut prix. Bon, voilà toute une politique qui s'est d'ailleurs traduite, vous savez bien, par une politique qui ne cherchait pas tellement à faire la différence entre ce qu'on appelle drogue douce et drogue dure, mais distinguer les drogues à valeur inductive et les drogues à valeur sans valeur inductive, et à distinguer surtout deux types de consommation, la consommation élastique de drogue et la consommation inélastique. Et de là, toute une politique d'enforcement de la loi du côté des nouveaux consommateurs, du côté des consommateurs potentiels, du côté des petits dealers, du côté de ce petit commerce qui se fait au coin des rues, etc., et dans lequel la politique d'enforcement de la loi était destinée à obéir à une rationalité économique qui était la rationalité d'un marché avec ses éléments différentiels dont je parlais. Bon, de tout cela, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence ? Oh oui, évidemment, beaucoup. Bon, disons que vous le voyez. Premièrement, gommage anthropologique du criminel. Gommage anthropologique du criminel dont il faut bien dire qu'il ne s'agit pas de l'élision de l'échelle individuelle, mais de la postulation d'un élément, d'une dimension, d'un niveau de comportement qui peut être à la fois interprété comme comportement économique et qui peut être contrôlé à titre de comportement économique. C'est Ehrlich qui disait dans son article sur la punition capitale, le caractère horrible, cruel ou pathologique du crime n'a absolument pas d'importance. Il n'y a pas de raison de croire que ceux qui aiment ou haïssent d'autres gens sont moins responsives, sont moins accessibles, répondent moins facilement aux changements dans les gains et les pertes associés à leur activité que les personnes indifférentes au bien-être des autres. Autrement dit, toutes les distinctions qu'il y avait, qu'on a pu introduire entre criminel né, criminel d'occasion, pervers et pas pervers, récidiviste, etc., n'ont aucune importance. On doit pouvoir admettre que de toute façon, aussi pathologique si l'on veut que soit le sujet à un certain niveau et vu sous un certain angle, un sujet est, jusqu'à un certain point, dans une certaine mesure, responsive à ces changements dans les gains et dans les pertes. C'est-à-dire que l'action pénale doit être une action sur le jeu des gains et des pertes possibles, c'est-à-dire une action environnementale. C'est le milieu de marché dans lequel l'individu fait son offre de crime et rencontre une demande positive ou négative. C'est là-dessus qu'il faut agir. Ce qui posera le problème dont je parlerai la prochaine fois, de la technique, de cette nouvelle technologie liée, je crois, au néolibéralisme, qui est la technologie environnementale, la psychologie environnementale aux États-Unis. Bon, deuxièmement, vous voyez, mais là alors aussi j'y reviendrai, que en horizon d'une analyse comme celle-là, ce qui apparaît, ce n'est pas du tout l'idéal ou le projet d'une société exhaustivement disciplinaire, dans laquelle le réseau légal enserrant les individus serait relayé et prolongé de l'intérieur par des mécanismes, disons, normatifs. On a en fait affaire. Ce n'est pas non plus une société dans laquelle le mécanisme de la normalisation générale et de l'exclusion du non-normalisable serait requise. On a au contraire, à l'horizon de cela, l'image ou l'idée ou le thème programme d'une société dans laquelle il y aurait optimisation des systèmes de différence, dans laquelle le champ serait laissé libre au processus oscillatoire, dans lequel il y aurait une tolérance accordée aux individus et aux pratiques minoritaires, dans lequel il y aurait une action, non pas sur les joueurs du jeu, mais sur les règles du jeu, et enfin, dans lequel il y aurait une intervention qui ne serait pas du type de l'assujettissement interne des individus, mais une intervention de type environnemental. Bon, eh bien, c'est un petit peu toutes ces choses que j'essaierai de développer dans le prochain.
Je voulais vous demander une chose. Ouais. Vous ne le voyez pas dans toutes ces analyses économiques des néolibéraux? Tu sais que jusque-là ne relevait pas de l'économique, mais on ne voit pas dans tout ça une ressemblance avec les principes marxistes des primautés de l'économie, par hasard. On peut
oui, il n'y a ça. Pas. On peut... Oui et non. Oui et non. Récoutez encore un peu. Oui. Je ne crois pas, justement.
Parce qu'au niveau des principes, je crois que c'est la même chose. Parce que
comme on est l'économie marxiste, repose toujours sur ou implique toujours une anthropologie. Et l'économisme marxiste est un tout autre type que cet économisme. Bonnet, il n'est pas concevable dans une société marxiste que l'on fasse fonctionner par exemple, les critères de marché comme principe de critique d'une action gouvernementale.
Oui, c'est complètement exclu.
C'est complètement exclu. Et pourquoi ? Parce que, en un sens, les objectifs gouvernementaux sont bien économiques, à la base, qui est sur quoi la programmation est fondamentalement économique. Mais quand il s'agit, par exemple, de développer l'industrie lourde, c'est en fonction de quoi ? En fonction de quels objectifs terminaux ? Constitution d'un prolétariat, élèvement général de la consommation, niveau. Ce ne sont pas du tout les objectifs d'une analyse économique, c'est un programme néolibéral. Tout de même, le marxisme est absolument hostile à l'idée d'un jeu non contrôlé des processus économiques, surtout quand ces processus doivent être indexés sur la concurrence et le marché. Donc je crois que. L'idée d'un primat de l'économie, enfin, c'est peut-être c'est la notion de primat.